Chapitre 11e. Monsieur de Maillefort attendait seul dans un salon quand Madame Dupont revint le chercher pour l'introduire auprès de Madame de Beauménil. La physionomie du bossu n'était plus railleuse comme d'habitude. On lisait sur ses traits une profonde tristesse, mêlée d'angoisse et de surprise. Debout, accoudé à la cheminée, la tête appuyée sur sa main, le marquis semblait perdu dans ses réflexions, comme s'il eût cherché le mot d'une énigme introuvable. Sortant soudain de sa rêverie, il regarda attentivement autour de lui avec mélancolie, et une larme brilla dans ses yeux noirs. Passant alors sa main sur son front, comme s'il eût voulu chasser de pénibles souvenirs, il marcha çà et là dans le salon d'un pas précipité. Au bout de quelques instants, Madame Dupont revint dire à Monsieur de Maillefort « Si Monsieur le Marquis veut se donner la peine de me suivre, Madame la Comtesse peut le recevoir. » Et précédant le marquis, Madame Dupont ouvrit la porte du salon qui donnait dans la chambre à coucher de Madame de Beauménil et annonça « Monsieur le Marquis de Maillefort. » La comtesse avait fait, si cela se peut dire, une toilette de malade. Ses bandeaux de cheveux blonds, naguère quelque peu dérangés dans les étreintes passionnées dont elle avait accablé sa fille, venaient d'être lissés de nouveau. Un frais bonnet de Valenciennes entourait son pâle visage, que son coloris fébrile et factice abandonnait déjà. Ses yeux, naguère brillants de tendresse maternelle, semblaient s'éteindre, et ses mains, tout à l'heure si brûlantes lorsqu'elle serrait les bras d'Herminie, déjà se refroidissaient. À l'aspect de l'altération mortelle des traits de la comtesse, qu'il avait vue éblouissante de jeunesse, de beauté, M. de Maillefort tressaillit et malgré lui s'arrêta un instant. Le visage du bossu trahit sa douloureuse surprise car Madame de Beauménil, restée seule avec lui, tâcha de sourire et lui dit « Vous me trouvez bien changé, n'est-ce pas, Monsieur de Maillefort ?» Le bossu ne répondit rien, baissa la tête, mais lorsqu'après un moment de silence il releva le front, il était très pâle. Madame de Beauménil fit signe au marquis de s'asseoir dans un fauteuil près de son lit et lui dit d'une voix affectueuse et grave « Je crains que les moments ne me soient comptés, Monsieur de Maillefort. Je serai donc brève dans cet entretien. » Le marquis prit silencieusement place auprès du lit de la comtesse qui continua « Ma lettre a dû vous étonner. » « Oui, madame. » « Et toujours bon, toujours généreux, vous vous êtes empressé de vous rendre auprès de moi. » Le marquis s'inclina. Madame de Beauménil reprit d'une voix profondément émue « Monsieur de Maillefort, vous m'avez beaucoup aimé. » Le bossu bondit de surprise et regarda la comtesse avec un mélange de confusion et de stupeur. « Ne vous étonnez pas de m'avoir instruite d'un secret que seul j'ai pénétré, » dit la comtesse, « car l'amour vrai, loyal, se trahit toujours auprès de la personne aimée. » « Ainsi, madame, » balbutia le bossu, à peine remis de son trouble, « vous saviez ?»«
Je savais tout, » reprit la comtesse, en tendant à M. de Maillefort sa main déjà froide.
Le marquis serra la main de Madame de Beauménil avec un pieux respect, tandis que ses larmes, qu'il ne contenait plus, inondaient ses joues. « J'ai tout deviné, » reprit la comtesse, « votre dévouement sublime et caché, vos souffrances héroïquement souffertes. »«
Vous saviez tout, » murmura M. de Maillefort avec hésitation, « vous saviez tout. Et dans les rares circonstances qui me rapprochaient de vous, votre accueil était toujours gracieux et bon, vous saviez tout. Et jamais... je n'ai surpris sur vos lèvres un sourire de moquerie. Jamais dans vos yeux un regard de dédaigneuse pitié.
« Monsieur de Maillefort, » répondit la comtesse avec une dignité touchante, « c'est au nom de l'amour que vous avez eu pour moi, c'est au nom de l'affectueuse estime que votre caractère m'a toujours inspiré, que je viens à cette heure, peut-être suprême, vous confier mes plus chers intérêts. »
Monsieur de Maillefort répondit avec une émotion croissante, « Pardon, pardon, madame, d'avoir un instant supposé qu'un cœur comme le vôtre pouvait railler, mépriser. Un sentiment irrésistible mais toujours respectueusement caché. Parlez, madame. Je me crois digne de la confiance que vous avez en moi. »
« Monsieur de Maillefort, cette nuit, j'aurais cessé de vivre. »«
Madame ?»«
Oh, je ne m'abuse pas. C'est à force d'énergie, c'est à l'aide de moyens factices que je combats depuis quelques heures. Les derniers envahissements du mal... « Écoutez-moi donc, car je vous le dis, les moments me sont comptés. » Le bossu essuya ses larmes et écouta. « Vous savez de quel affreux accident M. de Beauménil a été victime. Par sa mort, par la mienne, ma fille,
Ma fille Ernestine va rester orpheline en pays étranger, confiée aux soins d'une gouvernante. Ce n'est pas tout. Ernestine est un ange de candeur et de bonté. Sa timidité est excessive. Tendrement élevée par son père et par moi, ne nous ayant jamais quittés, elle ne sait donc du monde, de la vie, que ce que peut en savoir une enfant de 16 ans qui, par goût, a toujours aimé la retraite et la simplicité. Sans doute, je devrais mourir tranquille sur son avenir car elle sera la plus riche héritière de France. Cependant, je ne puis me défendre de quelques inquiétudes en songeant aux personnes qui, forcément, me remplaceront auprès de ma fille. C'est à M. et Mme de La Roche-Aigu, ses plus proches parents, qu'elle sera sans doute confiée. Depuis longtemps, j'ai rompu avec cette famille et vous la connaissez assez pour concevoir mes appréhensions. Il serait en effet à désirer, madame, que votre fille eût des tuteurs mieux choisis. Mais Mademoiselle de Beauménil a 16 ans, sa tutelle ne saurait être longtemps prolongée. D'ailleurs, les personnes dont vous me parlez ont plus de ridicule que de méchanceté. Elle ne saurait être réellement à craindre. Je le sais, néanmoins. La main d'Ernestine devra être l'objet de tant de convoitises. Et déjà même j'ai pu m'en assurer, ajouta Madame de Beauménil, en se rappelant l'insistance de son confesseur en faveur de M. de Macreuse. Cette chère enfant sera entourée de tant d'obsessions que je ne serais complètement rassuré que si je lui savais un ami sincère, dévoué, d'un esprit supérieur, et capable enfin d'éclairer son choix, cet ami presque paternel. Soyez-le pour Ernestine, je vous en supplie, Monsieur de Maillefort, et je quitterai la vie certaine que le sort de ma fille sera aussi heureux que brillant. Je tâcherai d'être cet ami pour votre fille, madame. Tout ce qui dépendra de moi, je le ferai. Ah, je respire. Je ne crains plus rien pour Ernestine. Je sais ce que vaut une promesse de vous, monsieur de Maillefort, s'écria la comtesse, dont le visage, pendant un instant, rayonna d'espérance et de sérénité. Mais bientôt le sentiment de sa faiblesse croissante, jointe à de funestes symptômes, fit croire à Madame de Beauménil que sa fin approchait. Ses traits, un moment épanouis par la sécurité que lui avait inspirée la promesse de M. de Maillefort au sujet d'Ernestine, exprimèrent de nouvelles angoisses et elle reprit d'une voix précipitée, suppliante. « Ce n'est pas tout, M. de Maillefort. J'ai un service plus grand encore, peut-être, à implorer de votre générosité. » Le marquis regarda Madame de Beauménil avec surprise. Éclairée, soutenue par vos conseils, reprit la comtesse, ma fille Ernestine sera heureuse autant que riche. Il n'est pas maintenant d'avenir plus beau, plus assuré que le sien. Mais il n'en est pas ainsi de l'avenir d'une pauvre et noble créature que je voudrais vous. Madame de Beauménil n'osa, ne put continuer. Résolue d'avance de confier à M. de Maillefort le secret de la naissance d'Herminie, afin de lui gagner à jamais l'appui de cet homme généreux, la comtesse recula, devant la honte d'un pareil aveu, qui eût aussi violé la sainteté du serment qu'elle avait juré. Le marquis, voyant l'hésitation de Madame de Beauménil, lui dit « Qu'avez-vous, madame? Veuillez de grâce m'apprendre quel autre service je puis vous rendre. Ne savez-vous pas que vous pouvez disposer de moi comme du meilleur de vos amis? « Je le sais, oh, je le sais, » répondit Madame de Beauménil avec une angoisse profonde. « Cependant, je n'ose, je crains. » Et les mots expirèrent encore sous les lèvres de Madame de Beauménil. Le marquis, voulant lui venir en aide, touché de son trouble, reprit. « Lorsque vous êtes interrompue, madame, vous me parliez, je crois, de l'avenir d'une pauvre et noble créature. Qui est-elle? Comment pourrais-je lui être utile ?» Vaincue par la douleur et par une faiblesse croissante, Madame de Beauménil cacha son visage dans ses mains et fondit en larmes. Mais après un moment de silence, attachant sur le marquis ses yeux noyés de pleurs et tâchant de se montrer plus calme, elle lui dit d'une voix entrecoupée « Oui, vous pourriez être d'un grand secours à une pauvre jeune fille, digne à tous égards de votre intérêt, car elle est, voyez-vous, bien malheureuse. Orpheline, sans appui, sans aucune fortune, mais pleine de cœur et de fierté, il n'en est pas, je vous jure, de plus vaillante au bien et au travail. Enfin, c'est un ange, » ajouta la comtesse, avec une exaltation de M. Maillefort fut frappée. « Oui, » reprit Madame de Beauménil en fondant en larmes, « c'est un ange de courage, de vertu, et c'est pour cet ange que je vous demande, à main jointe, votre paternel intérêt, comme je vous l'ai demandé pour ma fille Ernestine. Oh, monsieur de Maillefort, je vous en supplie, ne me refusez pas. » L'exaltation de madame de Beauménil en parlant de cette orpheline, son trouble, son visible embarras, cette recommandation suprême qu'elle adressait à monsieur de Maillefort, le suppliant de partager son affection entre Ernestine et cette jeune fille inconnue, toutes ces circonstances excitèrent de plus en plus l'étonnement du marquis. Pendant l'instant, il garda malgré lui le silence, puis soudain, il tressaillit. Une pensée douloureuse lui traversa l'esprit. Il se souvint des bruits calomnieux, infâmes, il les avait du moins jusqu'alors considérés comme tels, dont madame de Beauménil avait autrefois été l'objet, et dont le matin même il avait voulu la venger, en provoquant monsieur de Mornan sous un prétexte futile. Ces bruits étaient-ils fondés? L'orpheline à qui madame de Beauménil semblait porter un intérêt si profond, lui était-elle chère à un titre mystérieux? Était-elle le fruit d'une faute? Mais bientôt le marquis, plein de confiance et de foi dans la vertu de madame de Beauménil, repoussa ses fâcheux soupçons, se reprochant même de s'y être un moment laissé entraîner. La comtesse, presque effrayée du silence du bossu, lui dit d'une voix tremblante, altérée, « Excusez-moi, monsieur de Maillefort, j'ai abusé, je le vois, de votre générosité. Il ne me suffisait pas d'avoir obtenu l'assurance de votre paternelle protection pour ma fille Ernestine. J'ai encore voulu vous intéresser à une pauvre étrangère. Veuillez, je vous en prie, me pardonner. » L'accent de madame de Beauménil, en prononçant ces mots, avait quelque chose de si poignant, de si désespéré, que monsieur de Maillefort eut de nouveaux doutes navrants pour son cœur. Il voyait s'évanouir l'une de ses plus nobles, de ses plus chères illusions. Madame de Beauménil n'était plus pour lui cette créature idéale qu'il avait si longtemps adorée. Mais prenant en pitié cette malheureuse mère, et comprenant tout ce qu'elle devait souffrir, monsieur de Maillefort sentit ses yeux se mouiller de larmes et lui dit d'une voix émue, « Rassurez-vous, madame, à mes promesses je ne faillirai pas. L'orpheline que vous me recommandez me sera aussi chère que mademoiselle de Beauménil. J'aurai deux filles au lieu d'une. » Et il tendit affectueusement la main à la comtesse, comme pour consacrer sa promesse. « Maintenant je puis mourir en paix, » s'écria madame de Beauménil. Et avant que le marquis eût pu s'y opposer, elle pressa de ses lèvres déjà froides la main qu'il lui avait offerte. À cette expression de reconnaissance ineffable, monsieur de Maillefort ne douta plus que madame de Beauménil n'eût une fille naturelle. Tout à coup, soit que tant d'émotions eussent épuisé les forces de la comtesse, soit que les progrès de la maladie, un moment dissimulés sous un bien-être trompeur, eussent alors atteint toute leur intensité, madame de Beauménil fit un mouvement brusque et ne put retenir un cri de douleur. « Grand Dieu, madame !» dit vivement le marquis, effrayé de la subite altération des traits de la comtesse. « Qu'avez-vous ? Ce n'est rien, » répondit-elle héroïquement. « Ce n'est rien, une légère douleur, mais, tenez, prenez-y cette clé, je vous en prie. » Et la comtesse remit à monsieur de Maillefort une clé qu'elle prit sous son oreiller. « Ouvrez ce secrétaire !» Le marquis obéit. « Dans le tiroir du milieu, prenez un portefeuille. Le trouvez-vous ? Le voici. « Gardez-le, je vous prie. Il contient une somme dont je puis disposer, ou plutôt dont je suis dépositaire, » dit la comtesse en se reprenant. « Cette somme mettra du moins pour toujours à l'abri du besoin la jeune fille que je vous recommande. Seulement, » ajouta la pauvre mère d'une voix de plus en plus affaiblie, « vous me promettez de ne jamais prononcer mon nom à cette orpheline, de ne jamais lui révéler quelle est la personne qui vous a chargé de lui remettre cette petite fortune. » Mais dites bien, oh, dites à cette malheureuse enfant qu'elle a été tendrement aimée. Jusqu'à la fin, et qu'il a fallu... » Les derniers mots de la comtesse, dont les forces s'épuisaient, furent inintelligibles pour le marquis. « Mais ce portefeuille, à qui le remettre, madame? Cette jeune fille, où la trouverai-je? Quel est son nom ?» s'écria M. de Maillefort, alarmé de la rapide décomposition des traits de madame de Beauménil et de l'oppression qui pesait sur sa respiration. Au lieu de répondre aux questions du marquis, madame de Beauménil se renversa en arrière, jeta un cri déchirant et croisa ses mains sur sa poitrine. « Madame, parlez-moi !» s'écria le marquis en se penchant vers madame de Beauménil, bouleversée de douleur et d'effroi. « Cette jeune fille, où la trouverai-je? Qui est-elle? Oh, je me meurs !» murmura madame de Beauménil, en levant les yeux au ciel. Et dans un dernier effort, elle balbutia ces mots. « N'oubliez pas, le serment, ma fille, l'orpheline. » Au bout de quelques instants, la comtesse mourut. Monsieur de Maillefort, en proie à un profond et amer chagrin, ne douta plus que l'orpheline dont il ignorait le nom et qu'il ne savait où chercher, ne fût la fille naturelle de la comtesse. Le convoi de Madame de Beauménil fut splendide. Monsieur le baron de La Rochegue, le plus proche parent de la famille, conduisait le deuil. Monsieur de Maillefort, convié par le billet de faire part, ainsi que les autres personnes de la société de Madame de Beauménil, s'était joint au lugubre cortège. Dans un coin obscur de l'église, agenouillée et comme écrasée sur la dalle par le poids de son désespoir, une jeune fille, inaperçue de tous, priait en étouffant ses sanglots. C'était Herminie.